放
了。我们这次就算是用比赛的打开准备的过去吧，是吧？我们这个是一个不错的。我是你比较的。
Bon, mesdames, messieurs, je déclare donc la séance du Conseil ouverte et je vais faire l'appel. Monsieur Alonso, Frédéric Arnoul, Gérard Bartoli, Liliane Beltrando, Eric Kamler, Madame Charbonnier absente, procuration Monsieur Kamler, Pascal Cour, Sybille Gaillard absente, procuration Brigitte, Fabienne Gudinger, Christine Hugues, Brigitte Leboeuf, Gérald Détigue, Jimmy Lobé, Evelyne Loubet, Sandrine Martinez, absente, Dominique Mollard, absente, Manuel Ruiz, Francis Nardi, Claudette Pagès, François Pandolfi, Michel Ferronnet, Jean-Louis Fortolano, absent, Mille Vidal, Gisèle Renaud-Raymond, Patrick Roboul, Marc Royer, Manuel Ruiz, Patrick Tessier, Yves Vidal. 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10, 11, 12, 13, 14, 15, 16, 17, 18, 19, 20, 21, 22. 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10, 11, 12, 13, 14, 15, 16, 17, 18, 19, 20, 21, 22. Et 1, 2, 3, 4 procurations. 22, 4, 26 et une absente, 27. Le compte est bon. Nous avons l'ordre du jour qui n'est pas très important, mais qui était nécessaire de faire. Et en fin d'ordre du jour, j'évoquerai le rapport du PLU. Alors, premier point, Madame Cour, modification des créations de régie de recettes.
Et alors, donc, nous avions voté en juillet de 2011 la création d'une régie de recettes en direction donc, des services jeunesse et de tous les services de l'enfance et de la jeunesse. Donc, il convient aujourd'hui d'adopter une délibération modificative afin d'approuver un mode de recouvrement supplémentaire par prélèvement. Donc, c'est exactement la même délibération qu'on a votée en juillet. Sauf que, si vous voyez, on a rajouté en dessous le carte bancaire prélèvement. Ainsi que une précision est apportée sur la création d'un compte de dépôt de fonds qui ne figurait pas dans la délibération de juillet, qui sera au nom du régisseur. Voilà, c'est simplement une délibération modificative.
Et nous pourrons ainsi continuer à encaisser et développer l'encaissement via Internet, qui facilitera la comptabilité. Y a-t-il des questions? Il n'y en a pas. Qui est contre? Qui s'abstient? Unanimité. Merci. Vous en avez le cours.
Donc, par délibération 2010-46 en date du 29 juin 2010, 2011-63 du 23 juin 2010 et 2010-102, 14 décembre 2010, les tarifs des structures d'accueil en direction des jeunes et de la cantine périscolaire avaient été modifiés ou instaurés, puisque nous avions créé de nouveaux tarifs. Et il s'agit aujourd'hui d'approuver par cette délibération l'augmentation des tarifs, qui correspond à une augmentation annuelle de 1,8% par rapport aux tarifs précédents.
Des questions?
Pardon? L'augmentation, ça appartient.
Peut-être, je me demande si ça va pas vous de mettre les tarifs au 1er janvier.
C'est pas précisé.
C'est pas précisé dans la délibération, mais on le précise. On va le mettre au 1er janvier, comme ça on est sur des. 1er janvier. Monsieur Cabler.
Ouais, au vu de la situation actuelle, sans faire le tour, les difficultés que rencontrent de plus en plus les familles à pouvoir faire face à cette mort, aux besoins vitaux, les familles et l'éducation des enfants, bon, c'est tout, on va le voter, bien sûr, hein, mais peut-être il faudrait envisager la possibilité de stopper les augmentations pour l'année prochaine et de voir comment on peut travailler différemment. Il faut faire en sorte de ne pas plomber les salaires qui, vous le savez, puisque vous êtes à la retraite, sont bloqués, voire que certains, du fait de leur blocage du milieu. Peut-être que, à notre sens, le rôle d'une municipalité comme la nôtre est d'essayer de faire en sorte de limiter tant que faire se peut la situation actuelle et le problème qu'on rencontre les familles, il faut faire face à. Aux besoins de mettre les enfants à partir de l'école scolaire. Donc, ce qu'on vous propose, si vous voulez bien entendre, c'est de commencer à travailler l'année prochaine pour essayer de limiter, de ne pas systématiquement calquer la hausse de l'inflation, s'il y en a encore, sur les tarifs de la restauration, les tarifs de l'école scolaire. Voilà, c'est la proposition qu'on vous fait. Donc, ce coup-ci, bien évidemment, on va le voter, puisqu'on n'a pas le temps d'en parler plus que ça. Voilà. Mais. On vous invite juste à prendre en compte que la situation actuelle n'est pas pour favoriser, pour aider les familles à pouvoir assurer pérennement l'éducation de leurs enfants.
J'entends, je partage. La problématique aujourd'hui sur les tarifs des services publics, c'est qu'à un moment donné, et certains d'ailleurs l'ont fait nous aussi, c'est de débloquer l'inflation de la réalité des tarifs. On en arrive, parce que de toute façon, si ce n'est pas l'utilisateur qui paye, c'est le contribuable. Le contribuable étant aussi l'utilisateur. Personnellement, mais le débat est ouvert, personnellement, je préfère une formule, puisque l'avenir nous amène progressivement à avoir une réalité des tarifs de plus en plus proche de la réalité, c'est-à-dire que la subvention commune devient de plus en plus, entre guillemets, intellectuellement illégale, puisqu'on en est, il faut faire payer ce que ça coûte. C'est sur l'eau, c'est sur l'assainissement, ça va être sur les ordures ménagères, ça va être, etc., etc. Personnellement, et le débat est ouvert, je préfère la formule de maintenir les tarifs et de continuer à suivre l'inflation. Par contre, sur les familles en difficulté, de jouer sur le CCAS comme on le fait, puisqu'on a régulièrement au comité du CCAS des dossiers qui nous sont déposés et on prend en charge sur le CCAS des aides spécifiques à vos dossiers. C'est à la fois ceux qui peuvent payer, il y en a quand même quelques-uns, parce que si on n'applique pas la hausse, c'est tout le monde qui n'aura pas la hausse et qui sera appliqué. Et ça veut dire que c'est l'info qui sera repartie sur tout le monde. Si on maintient l'inflation à peu près comme elle est de ceux qui étaient impliqués, qu'on joue après sur des dossiers CCAS, on garde l'augmentation pour ceux qui peuvent payer et on fait bénéficier à ceux qui peuvent payer du aide du CCAS. Mais vous devez être ouvert. C'est un vaste débat. Monsieur Ruiz.
Oui, moi je voudrais ajouter quand même, il faut oublier ça, les tarifs sur l'appui, surtout au niveau des repas, parce que c'est là, les choses sont plus importantes, c'est la création. Ils ne représentent qu'une petite partie du prix.
25%.
Ensuite, une augmentation de 1,8% sur des sommes aussi basses représente 2 centimes, 3 centimes. Je crois qu'en plus, les gens ont la possibilité, on utilise le quotient familial. Donc vous avez le 7. Je crois que bon, tout ceci mis en bout à bout fait en sorte que l'augmentation que nous proposons, une augmentation qui ne va pas éclater le budget des grands soirs.
Ah, M. Kamler, et après, M. Pascal, on ne va pas faire un débat sur l'inflation. Voilà, hein.
Mais bon. Je ne voulais pas lancer le débat.
Non, non, mais bon.
Non, je voudrais simplement dire que pendant des années, nous n'avions pas touché au tarif. Et qu'il vaut peut-être mieux faire une augmentation d'un 1,8% par an en douceur de 2 ou 3 centimes plutôt que d'augmenter d'un coup
Ce qu'on a eu fait. On a eu fait de bloquer et puis d'augmenter les coûts.
Allez. Je me comprends, je pense que c'est quelque chose que j'ai partagé pendant longtemps. La seule chose que je voulais vous dire pour apporter des bases, bon, il arrive là, tant pis, c'est pas grave. Parce que c'est le souci. Mais c'est que de toute manière, le problème du genre de natation, c'est que sur les catégories moyennes qui sont le plus touchées, que les retraités actuels et les catégories supérieures s'en foutent de son natation individuelle. Par contre, effectivement, notre approche est de dire l'imposition municipale peut aider et fera jouer plus sa solidarité. Ah, aujourd'hui, je suis plus sur cette position-là. C'est celle-là que je voulais vous dire, vous entendez. Maintenant, j'ai entendu.
Avec le bémol, quand même, que l'impôt le plus injuste qu'il y a, c'est l'impôt municipal. Oui, mais c'est je dis en termes de répartition, c'est l'impôt le plus injuste puisqu'il n'était pas compte des revenus. Tu n'as même pas la baraque, mais tu n'as plus de boulot, tu payes cash. Bah donc, je veux dire, c'est un vaste débat. Hein.
Je crois que, il y a une commission en France où l'opposition a représenté. Si l'opposition avait apporté un point de vue, il sera étudié.
Allez.
Ouais, moi, je voulais simplement dire que finalement, tu as raison de souligner le poids de la crise, là, mais le poids de la crise sur la commune, sur les finances de la commune, on aura à le chiffrer. Et pour le chiffrer valablement, il vaut mieux passer par l'intermédiaire du CCAS, où on pourra bien montrer l'effort de la commune, alors qu'une bonne augmentation, ça ne se chiffre pas. Quoi, hein, c'est ce qu'il faut lui dire.
Bon, allez. Oui.
Pour le parler de ma psychologie, mais pourquoi par exemple il y a l'augmentation du tarif adulte, c'est pas l'augmentation de jeunesse, pourquoi le tarif adulte, pourquoi il y aura les autres, après il y a le sort du portage, je ne sais pas.
Non, là on parle de tous les tarifs.
Je vois combien adultes.
C'est tout à fait cantine. Qui sont quand même essentiellement des trucs enfants, en quantité de repas servis.
Ce sont les repas servis, et la cantine, les repas qu'on sert. Adultes, avec des
personnes
adultes qui déjeunent à la cantine avec les enfants, donc on est en adulte. Voilà.
Donc il
n'y
a toujours pas la modulation comme je vois
avec les sociétés. Non. Bon, allez, qui est contre? Qui s'abstient? Une abstention. Et les autres pour. Donc ça fait 26, 25 pour. Instauration d'une taxe d'aménagement. Alors, je pourrais poursuivre le débat là aussi. La loi de finances de 2010 a encore modifié les recettes des communes et a annulé la taxe locale d'équipement qui servait pour les nouvelles constructions, qui servait d'être perçue sur les nouvelles constructions, à aménager, à amener l'eau, les coûts, les voiries, les parkings et tout le bazar, y compris la taxe parking. Tout ça a été refondu dans une nouvelle taxe qui s'appelle la taxe d'aménagement, qui va inclure donc l'ensemble des taxes liées à l'urbanisme, pour faire simple. Cette taxe rentrera en vigueur en 2012 et elle se substituera donc complètement à toutes les taxes actuellement en cours. Dans la mesure où notre interco assure l'équipement et l'aménagement, puisque c'est eux qui paient les routes, les guidons, l'électricité, etc., c'est qui paient l'aménagement de la voirie, qui est essentiellement équiper l'eau et l'égout, nous pensons qu'il serait bon et logique, puisque c'est eux qui ont la dépense, que ce soit, comme c'est déjà transmis au niveau de la TLE, que ce soit le SAN qui perçoive cette taxe et qui, en contrepartie, s'engage à payer la totalité des aménagements. C'est ce qui se fait sur la TLE, c'est ce qui se fait. Mais avec cette nouvelle taxe, d'avoir la même opération. Donc je vous propose donc de donner notre accord au SAN pour qu'il institue cette taxe qui, pour le moment, sera une taxe de 3%, qui est ce qui est actuellement appliqué, qui pourrait évoluer jusqu'à 5, puisque la loi le permet, et le SAN, dans le cadre du débat budgétaire qu'on a eu la semaine dernière, estime que pour le moment, donc, on va laisser cette taxe à 3%, qu'en fonction des nouvelles règles d'urbanisme qui obligent les collectivités, dès qu'il y a une zone qui est urbanisée, à payer l'eau, payer les coûts, faire les routes, etc., avant, il y avait des participations qui pouvaient être demandées aux pétitionnaires, c'est plus le cas. Donc, l'année prochaine, ou dans 2 ans, quand on aura à peu près fait le bilan de ce que ça coûte et de ce que ça rapporte, le SAN verra si on modifie le taux de la taxe ou pas, mais aujourd'hui, il resterait également à 3%. Mais par contre, il regrouperait la totalité, c'est-à-dire que ce taux inclut les taxes de parking, quand il faut des parkings, la totalité des taxes. Voilà, nouvelle loi des finances, monsieur Aoudo.
Oui, là, je vois qu'au bout de 3 ans, on va se déchirer, c'est la partie syndicale de prendre les droits. d'un peu je suis parti, c'est-à-dire le conseil municipal permet au SAL, enfin permet donne la délégation au SAL, et après il perd complètement le contrôle. Puisque c'est le comité.
Non, c'est une vision restrictive de l'Interco, perd pas complètement le contrôle, puisque le SAL, c'est nous.
Ben, c'est nous,
le SAL, c'est les collectivités. Le SAL est constitué des élus des collectivités. Moi, j'ai pas un cerveau cloisonné, où quand je suis à cette table, je pense bleu, et quand je suis au SAL, je pense rouge. Donc, si je suis sur une philosophie 2, j'ai la même ici et là-bas. Alors, se pose le problème de l'opposition, qui sera résolu en 2014 en ayant participation, mais aujourd'hui, c'est constitué comme ça. Mais la commune n'est pas en dehors des décisions du SAL, puisqu'elle en est partie prenante.
D'être partie prenante ou pas, une décision, c'est une question d'information. On n'a quasiment absolument aucune retombée de ce qui se passe au conseil syndical.
Mais c'est public, vous pouvez venir. Et le président vient une fois par an faire son rapport.
Il y a du personnel qui vient au comité.
Oui.
Il y a un grand espace réservé pour le public.
Il y a toujours 50 à 60 personnes.
Ah oui.
Je crois savoir qu'à un certain moment, M. Kammer avait envoyé du monde et qu'il était intéressé au plan d'occupation des sols de Corbillon. Il y avait du monde là. Vous vous rappelez, M. Kammer? Mais il y a des choses sur Grand qui sont intéressantes aussi, pas que de Corbillon, hein. M. Kammer.
Si vous voulez qu'on
ait
des paroles, ça sert à rien de commencer comme ça, mais
si. Non, mais il se dit que c'est ouvert, c'est ouvert. Mais il n'était pas ouvert.
Ça pourrait être une deuxième municipale, ça va passer à monter crescendo, si je savais. Non, ce que je veux dire simplement, c'est que par rapport à ce qu'on vient de dire, on transfère ça en contrepartie.
Mais c'est déjà le cas de la TNE.
En contrepartie, il s'engage à financer, gérer, tout ce que tu veux. Dans le projet de libération, ce n'est pas marqué. Ça, c'est normal. La semaine prochaine, si contrepartie doit y avoir, pour que l'on puisse voter en pleine condition de cause, sans remettre en cause du tout l'honnêteté des élus du SAL, de la majorité de positions, c'est bien sûr marqué dans le projet de libération. En l'occurrence, là, c'est pas le cas.
Mais ça peut pas être marqué, puisqu'on attend encore au SAN. Il faut que le SAN ait d'abord, pour instaurer la taxe et définir les conditions, il faut d'abord que toutes les communes aient donné le feu vert pour qu'ils instaurent cette taxe. C'est-à-dire là, on donne l'autorisation de lancer l'opération d'instaurer la taxe. Les conditions de la taxe se feront quand le SAN sera en capacité de dire on instaure la taxe.
Alors, dans ce cas-là,
voilà.
Peut-être que si le Gémois, ça changeait l'objet de l'autorisation en restaurant d'institution de la taxe d'aménagement.
Oui,
donc, pas l'autorisation de discuter.
Non, c'est pas discuter. D'instaurer la taxe. Donc, les modalités de la taxe, ils ne peuvent les définir dans une délit, c'est quand on les aura autorisés à faire la délit, sinon ils n'ont pas le droit d'instaurer une taxe. Je vous rappelle quand même que depuis 2003, depuis 2003, la voirie, le truc, le machin, c'est déjà le SAN qui paye. Hein. Il y a 2 millions par an d'investissement du SAN sur la commune. Donc c'est déjà le cas. Alors qu'ils n'ont pas la totalité des taxes. C'est-à-dire qu'on est dans la situation assez paradoxale et limite, où nous encaissons, nous, les taxes de parking, etc. Et c'est le SAN qui goudronne et qui fait les travaux. C'est-à-dire qu'aujourd'hui, c'est nous qui encaissons, c'est le SAN qui fait les travaux. C'est nous qui avons les recettes, on n'a pas les dépenses. Et le SAN a les dépenses, il n'a pas les recettes.
Donc, taxes
que
nous
récupérera
pas le
sang
par la
notion de
la vente, ça fait
le
petit peu plus.
On en parlera tout à l'heure.
Je vois
qu'aujourd'hui, on a décidé de se mobiliser
les gros
hôpitaux. Ceci dit, le SAN, au prochain bureau syndical, si vous y venez, quand il y aura le débat d'orientation budgétaire, s'il est présenté, ce que je pense, comme il a été présenté en commission des finances, je pense que vous apercevrez qu'être allé au SAN n'est pas une mauvaise chose d'une manière globale et en particulier pour la commune, pour ceux qui en doutaient. Alors je reviens à l'instauration de la taxe suivant ce qu'on a eu, qui est contre, qui s'abstient, 3, pour, donc 3 contre, donc 26, 23 pour. Non, abstention ou contre ? Abstention. 0 contre, 3 abstentions et 26 pour. Alors, Madame Gruninger, le carré 6 Paris.
Alors, pour rappeler, c'est le projet Omnium. Elle nous a déposé une modification de son permis de construire, qui ne convient toujours pas, puisque les modifications apportées ont un impact architectural trop important, donc je vous demande de mettre un avis défavorable à ce projet de modification. Sachant aussi que c'est un... Nous avons eu l'occasion de les revoir à nouveau et que les demandes qui ont été formulées par la mairie n'ont toujours pas été positives. Exactement.
Oui, tout à fait.
Donc c'est un moyen pour nous de...
Sachant que nous, c'est pas nous qui refusons le permis, nous demandons au SAD de le refuser, puisque c'est un permis de plus de 30 de logements qui est délivré par le SAD, et qui est étudié par le SAD. Oui.
Il n'y a rien pour les mouchons, mais en l'occurrence, ça ne change pas quoi, parce qu'on est revenu pour le
permis. On les embête un peu.
Ouais. On les embête. Non, c'est... non, pas du tout. Parce que les propriétaires sont dans la situation où ils n'ont pas la conformité. Ils n'ont pas la conformité. Du coup, ils font pression sur leur notaire, ils font pression sur la société.
Donc pour nous, c'est un moyen de...
Voilà. C'est le dernier moyen qui nous reste. Donc qui contre, et qui est pour notre délibre, donc qui est contre cette délibre, qui s'abstient.
Qui est pour cette délibération.
Non mais d'abord, je vais voter les contre, c'est plus facile. Qui contre, qui s'abstient, unanimité. Merci. L'inventaire. Alors, comme d'hab, qu'est-ce qu'on a à l'inventaire? Commune d'Istre. Chemin du Castellar, la gestion immobilière de la place Champollion, qui rentre et qui sort dans le SAN. Des observations? Il n'y en a pas. Qui est contre? Qui s'abstient? Unanimité, merci. Des remboursements de sinistres, monsieur Ruiz?
Ce n'est pas des remboursements de sinistres, c'est des remboursements de frais de justice. Alors, la commune a été assignée par les époux Martini devant le tribunal administratif en annulation du permis de construire délivré en 2009 à la SCI Martini. Ce dossier a été pris en charge au titre de leur contrat d'assurance protection juridique et il y a lieu à ce jour donc d'accepter la somme de remboursement de la société EPJ pour un montant de 717,60 €.
Question?
Oui. Correspondant à l'indemnisation de frais de procédure. Ils sont élevés à combien ces frais de procédure?
Alors, pour ce cas-là, nous avons été remboursés à hauteur de 60%.
D'autres questions? Qui est contre? Qui s'abstient? Unanimité. Merci. Monsieur Rizzo, notre sinistre.
Un ordre, toujours les époux Martini, qui a été assigné en référé la commune, à l'encontre du permis de construire qui a été déposé en 2011 par madame Thierry Jacqueline. Voilà, on demande donc d'accepter le contrat d'assurance de la protection juridique. Il a lieu d'accepter le remboursement proposé par la CFDP d'un montant de 600 €. Et là, ça représente la totalité.
Ça me permet de faire remarquer que nous avons une protection juridique et que les frais d'avocat nous sont régulièrement remboursés. Alors,
c'est 5 000 € d'amende.
Alors, le Martini qui habite paye 5 000 € d'amende au Martini constructeur qui a déposé le permis.
On n'a
pas le résultat. Donc, qui est contre, qui s'abstient, unanimité, merci. Guide pratique.
Depuis plusieurs années, la commune de Grance, via le service communication et service pratique de la commune, qui est donc un annuaire des services municipaux, des services publics et une brochure des associations, il a été fait le choix par la commission de vendre des encarts publicitaires pour financer l'impression de ce guide. Donc je vous propose d'approuver un contrat d'annonce commerciale pour reconduire les tarifs de 2010. Et pour permettre à ces sociétés de faire la recherche d'annonceurs pour les guides.
L'année dernière, ces tarifs ont été à peu près divisés par deux, et nous avons des accords qui font que le surplus de ce qui nous est reversé sert à la COM en particulier pour acheter du matos
pour les voisinades.
Et l'année dernière, on a été un petit peu, alors c'est pas des millions, hein, un petit peu bénéficiaire, mais le grill est gratuit et en plus ça nous rapporte 4 sous. Et c'est pas du racket comme c'est régulièrement le cas par ce genre de contrat. Des questions ?
Sur la question, je connais la liste des associations qui auront l'honneur de figurer dans ce guide.
Tire au sort. Qui est contre ? Un, deux. Deux, trois abstentions. Abstentions. Merci. Trois abstentions.
Contre.
Contre, trois contre. On va voir ce sujet. Dénomination des éléments sociaux. Nous avions eu une intervention très intéressante de M. Kamler en tant que professionnel qui, pour éviter de se perdre dans l'ignorance, nous avait fait remarquer en tant que facteur qu'il y avait des noms de lotissements qui risquaient de ressembler à des noms de rues. Et donc, on avait suspendu. Depuis, il y a eu une réflexion qui a duré 3 mois car c'était un sujet qui méritait de ne pas être retoqué par l'opposition. Et après des recherches importantes, nous avons découvert qu'il y avait une ferme dans le coin qui s'appelait Les Anglades, une propriété qui s'appelait Les Anglades, qui n'existait plus. Nous proposons donc, ça a été suggéré qu'il y ait des noms un peu de quartier, parce qu'il y a appelé le lotissement Les Anglades. La Délib, bien sûr, les Farigoules, c'était pour vous rappeler ce qu'on avait mis. Ce n'est pas la dénomination de la Farigoule, c'est la dénomination des Anglades. Des questions ? Il n'y en a pas. Monsieur le facteur, est-il satisfait ? Parfait. Qui est contre ? Qui s'abstient ? Unanimité. Octroi de subvention de famille et Provence. C'est la deuxième partie de cette construction. Il y a eu une première partie il y a 2 ans qui a fait l'objet de 15 logements, 5 logements HLM et 5 logements et 10 logements privés, avec une deuxième tranche qui devait également faire partie de 5 logements HLM et de 10 logements privés. Sur la première tranche, pour permettre aux promoteurs de rentrer dans les tarifs imposés par les HLM, nous avions, comme on l'a fait d'ailleurs sur Famille et Provence, en mettant à disposition des terrains à des prix en dessous du marché, donc nous avions participé à 3 000 euros par logement et versé 15 000 euros, qui nous sont déduits de la pénalité tant qu'on n'a pas nos 20% de logements sociaux. Donc c'est à la fois, ça nous permet à la fois de monter des logements sociaux, de participer à ce que le tarif fasse et que les loyers après soient au plus bas, et au niveau financier de la commune, ça sort d'un côté, ça rentre de l'autre. Il y a une deuxième opération, mais Fabien a négocié, et après d'autres tractations, ce n'est pas 5 logements sociaux et 10 logements privés, mais c'est la totalité des logements qui vont être sociaux, et pour des raisons économiques, qui se monteront à 10 logements sociaux. Donc, c'est un groupe qui va se composer, il devait se composer de 20 logements privés, de 10 logements sociaux, il va se composer de 10 logements privés et de 15 logements sociaux, donc on va au-delà des 50% que l'on avait inscrit et que l'on pratique au poste et au PLU. Mais bien sûr, la logique pour qu'on maintienne les tarifs, c'est de participer sur le même montant et de payer donc la participation de 3 000 euros, mais c'est multiplié par 10, 30 000 euros, qui nous seront décomptés de notre pénalité de la loi SRU et de la HLM non versée. Est-ce que j'ai été clair ? Monsieur Roboul.
Moi, vous avez tout dit, effectivement, ça a été clair. On commence à se rendre compte que ça commence à. On donne beaucoup pour chaque logement social, je veux dire. C'est déjà une opération, je crois, qu'on a modifié le code pour qu'ils puissent construire beaucoup plus. Donc, à cette société-là, je pense qu'on leur a donné déjà pas mal de choses. Et là, juste la commune va encore verser des sommes. À l'arrivée, moi, je trouve que ça commence à faire beaucoup.
Quelle formule vous avez ? Sachant que c'est une société privée qui construit, que nous imposons à cette société privée de vendre ses logements. Vous savez comment ça fonctionne, M. Paul Turboul. Pour ne pas se faire avoir comme ici Paris, cette fois on impose que le promoteur signe avec un bailleur social. Et quand il a construit, il vend à un bailleur social pour s'assurer que c'est bien des HLM, que ça va avoir une finalité d'HLM, pas comme ici Paris, qui a vendu à des privés, qui après font ce qu'ils veulent, et on perd le bénéfice de l'opération. Bon, on en a donné une fois, on en a pas deux. Là, problème, c'est qu'on a un promoteur qui construit au tarif du marché, mais qui est tenu de vendre au tarif du marché. Et le tarif du marché HLM, c'est 2 100 €, tout compris. Voirie, le bâtiment, et il vend 2 100 €. Quand on sait qu'aujourd'hui, le marché, c'est 3 000 € le mètre carré, sur une villa, tout compris, terrain, électricité, tout bazar, il n'y a pas de capacité d'avoir d'HLM. Et donc, si on ne construit pas d'HLM, non seulement on ne les a pas, mais en plus, on a la pénalité imposée par la loi SRU tous les ans qui augmente. Je vous rappelle que cette année, si on n'avait pas fait preuve de bonne volonté avec ce genre d'opération, ce n'est pas 63 000 € qu'on paierait, c'est 98 000 €. 98 000 €. Je préfère, ça fait pratiquement la différence, je préfère mettre ces 30 000 € en subvention pour avoir ces 10 logements que de toute façon on paiera et que ces 30 000 € soient décomptés de la prochaine pénalité que l'on aura, on gagne sur tous les tableaux. On a des logements sociaux et on ne paye pas plus. Après, que l'économie fasse que, effectivement, mais d'un côté, on a un privé qui construit au tarif du privé et les règles d'urbanisme social, l'État n'augmente pas le montant de rachat du prix du mètre carré. La société HLM, elle le voudrait, elle ne peut pas payer plus de 2 100 € le mètre carré. Si ce n'est pas les collectivités qui le font, il n'y a pas d'HLM.
Monsieur le maire, je crois que nous, la collectivité, on a fait un effort énorme. Parce
oui.
Que si la société privée avait construit à cet endroit-là, au tarif du privé, sans faire de logements sociaux, ils auraient fait la moitié du logement.
Et ils auraient fait. Ils auraient fait des villas. Ils auraient fait des villas à 350 000 euros. Ils auraient construit des villas à 350 000 euros avec un profil qui est le profil de beaucoup de maisons aujourd'hui qui se vendent de 300 à 400 000 euros dans leur village. Ce qui veut dire que nos jeunes et tout ne peuvent plus se loger.
Nous, on a fait
des
efforts énormes.
On leur
a accordé de construire le tout de ce qu'ils avaient le droit.
50%.
Elle,
normalement,
ça, ils auraient pu.
50%
de plus. On a deux exigences. Oui, on avait ça. On leur a accordé. Et là, en plus, maintenant, on
va leur demander. Leur oui, mais entre-temps, il y a une. Mais c'est pas la règle du jeu aussi. Donc,
à un moment donné, on. C'est pas la société
privée qui a versé 32 000 euros. C'est
la famille Pro. Oui, c'est la famille Pro, la société d'HLM. Pour leur permettre de payer 2003 ou 2004 le mètre carré, qu'ils auraient vendu à ce tarif, alors qu'eux, ils ne peuvent payer que 2100. Et c'est ça la règle. Voilà. Sinon, on n'a pas d'HLM. Et sur le terrain, se seraient fait 3 magnifiques villas avec des terrains à 250 000 euros le terrain et des villas à 200 000, 500 000 euros.
Je veux dire, pour chaque logement social que nous avons fait comme sur France, on a toujours donné 30 000 € pour 5 logements.
On a eu donné plus. On a eu donné plus. La première opération, vous n'étiez pas là, mais la première opération qui a été faite, c'est les logements de troisième âge. Ouais. Nous avons donné le terrain, il était cautionné d'emprunt, il participait à un tas d'emprunt. À l'époque, on donnait le terrain.
Vous l'avez dit, si on a cautionné
pour. Mais on a donné le terrain. Ouais. Les coussous, la première opération des coussous, on a donné le terrain. Voilà. Donc, on a toujours participé. Toutes les collectivités ont toujours participé sur des terrains. Toujours. Sinon, c'est dans des zones comme nous, le foncier coûte 30 à 40% plus cher. Sur Gans, c'est ce qui fait notre joie de vivre, d'être à Gans. On sait très bien que le foncier coûte 30% plus cher qu'à la phare, etc., etc. On ne pourra jamais avoir de logements sociaux. Parce que le truc du marché aujourd'hui sur le foncier, ça vous plombe 50%, et après il faut qu'on soit des cabanes à moi.
Puis il ne faut pas oublier non plus que ce qu'on appelle logement social, c'est quand même, il y a plus de 50% de la population grand-soise qui peut en bénéficier.
Ça veut dire que c'est très bien.
C'est à un moment donné, il faut regarder. Pour
5 logements sociaux en plus, on n'en tire pas 30 000 euros.
Le problème, c'est qu'à un moment donné, l'État.
10 logements. 10 logements. 3 000 euros. Mais c'est pour compenser le prix du mètre carré, le prix de construction du privé. Au prix payé, c'est au prix plafonné d'HLM.
De manière, on l'avait
foutu clair. Ouais, et de toute façon, on récupère. Alors,
c'est l'affirmation d'une politique. Le social, c'est cher. Voilà. Et en plus, c'est cher.
Que c'est comme là.
Juste une autre question, parce que je n'ai pas bien compris tout à l'heure la situation. Tout à l'heure, donc, vous avez dit, on en arrive à décliner les 15 sociaux.
Oui.
Là, sur l'éducation, par exemple, il n'y a que 5 par contre.
C'est
quoi la situation
dans les villes? Non, il a dû y avoir une. Il y avait.
C'est marqué 5 en dessous.
Il y a 10 logements. C'est 10 logements. Sur les totales, non, mais il y a la première tranche. Il y a déjà construit existant 10 privés et 5 sociaux. 10 sont. Pour ces 5 sociaux, on a versé 15 000 euros.
Là, on parle de. Voilà.
La deuxième tranche devait refaire 5 sociaux et 10 privés. Moi j'ai dit, puisque j'ai vu le gars, j'ai reçu le directeur Crozier de HLM, c'est 10 logements sociaux qui font. Alors, vous mettez comporte 7, vous mettez comporte 10. Voilà, 10 logements sociaux.
Non, je ne vois pas. On peut les réduire à la
même chose. Que vous vouliez retarder des projets HLM, donc je vous ai pris. Mais on peut écrire la délibre, on peut l'écrire tout de suite.
Eh bien, on est
là. Voilà, mais voilà, 10 logements sociaux, alors, c'est écrit.
Premier paragraphe, donc le projet global comporte 10 jours, c'est ça?
Non, le projet global comporte alors 15 logements sociaux et 10 logements privés.
Où tu en es à 10 privés là?
Et oui, si tu mets la totalité. La totalité de l'opération, le projet global. Ouais, global. Donc, 5 logements sociaux et 10 logements privés déjà réalisés. Voilà.
Ok, c'est bon, mais tu auras la moitié.
Voilà.
Les deux logements achetés en collectif, on va avoir
c'est la même société qui fait les coûts de ça.
Ouais.
Non, c'est la même société qui rachète. La société qui fait les coûts sous le deux les construit. Là, c'est la même société qui les rachète à un promoteur. Voilà, après avoir modifié les quantitatifs et revenu global, je vois la question qui est contre, qui s'abstient, une abstention. Alors, les décisions municipales, c'est essentiellement des marchés de procédure, de travaux, la boule, le réseau d'assainissement. Création d'un réseau assainissement ou pluvial, c'est justement pour les coussous, pour envoyer sur les eaux des bassins de rétention des coussous sur la Touloubre. On lance le marché. On n'a pas le résultat, on lance le marché. Et l'affaire Martigny, on vous en a parlé.
J'ai juste une question,
c'est. Oui.
Il parle de l'âge de la boule.
C'est le morceau du cimetière.
Question diverse, j'en ai pas, si moi j'en ai une, c'est pas tout à fait une question diverse, c'est le plan local d'urbanisme. Nous avons donc reçu l'avis du commissaire enquêteur, je dois féliciter depuis quelques années tout le travail qui a été accompli autour de Fabienne par la commission d'urbanisme avec les services, David, les services du SAN, etc., etc., qui après moult avortements divers et variés nous ont permis de présenter ce PLU à la population et d'avoir, si les choses se passent à peu près normalement, le PLU approuvé premier trimestre 2012. Ce plan local d'urbanisme est important parce qu'il définit en tous les cas de manière précise les orientations de la commune pour les 10 à 15 années à venir en matière de développement de population, c'est un développement maîtrisé, d'équipements sociaux, puisque on vient de l'évoquer, nous avons 300 logements sociaux en retard, puisque la commune doit avoir en 2020, 400 logements sociaux, nous en avons 100 aujourd'hui, que donc on a établi, pour ne pas avoir une démographie importante, le rapport des 50-50 qui fait que ça fait à peu près 600 logements à construire, dont 300 sociaux, puisqu'on est parti de là en fait, les 300 sociaux, il y en a fait 50, donc 300 privés, bien sûr étalés, avec un zonage qui se fera sous la forme de zones d'aménagement concerté sur les 10 ans à venir, d'avoir une capacité de réaménager Marie-Rose et de construire le stade avec le logement de gardien, etc., qui actuellement n'est pas constructible, de pouvoir aménager et enfin rendre constructible la zone artisanale qui, pour la moitié ou plus de la moitié, est actuellement constructible que sur un hectare, ce qui pour un artisan fait quelques problèmes, d'avoir la possibilité également de construire les ateliers dans la zone d'une parcelle qui n'est pas constructible, d'avoir des parcelles constructibles au bord de la Touloubre pour nous permettre de construire la nouvelle station d'épuration et d'avoir un nouveau cimetière. Tout cela dans un développement maîtrisé qui fait que l'ensemble des services de l'État ont très largement approuvé, au-delà de toutes les discussions qu'il y a eu entre services de l'État de l'époque et DDE, DDA, d'avoir un PLU qui correspond à peu près à ce que nous souhaitons, en tout cas que la majorité souhaite, sur la zone de Grance via les aménagements dans le cadre du SCOT, du SAL. Donc moi je dois dire que je suis très, très satisfait enfin que l'on arrive à ça. On a plusieurs projets qui sont en attente et qui étaient bloqués, qu'on va pouvoir débloquer. Nous avons une interrogation actuellement, puisque le commissaire enquêteur a émis des réserves. Alors, je rappelle que le commissaire enquêteur donne un avis, nous ne sommes pas du tout tenus de le suivre, a émis une réserve sur la zone des Talons, sur la base de Natura 2000. J'ai rencontré le représentant de l'État, en l'occurrence le préfet, j'ai rencontré les services de l'équipement, et la DDM, qui ont une position très, très, très tranchée. Ils ont approuvé le PLU tel qu'il était. Si nous le souhaitons, les services de l'État approuveront le PLU tel qu'il est. C'est-à-dire avec la zone des palais. Moi, je me pose la question si ce n'est pas une opportunité pour nous que le commissaire enquêteur nous fasse réfléchir sur cette zone des palais. Bien sûr, il n'est pas question de considérer que cette zone des palons, à terme, restera agricole. Mais cette zone des palons, telle qu'elle a été définie en 91 et en 97, était une zone très spécifique, centrée sur Casino. Et depuis, on se bagarre au Casino, Carrefour, etc. Je me pose la question si la suggestion que nous fait le commissaire enquêteur de la retirer pour la redéposer sous une autre forme, car si vous avez bien lu, c'est ce qu'il nous suggère, n'est pas un moyen pour nous, on n'en est plus à deux ans près, de la réfléchir et de voir comment on peut sortir du carcan de la Commission nationale d'urbanisme, qui nous emboucane de la vie. Donc les services juridiques de Ouest-Provence et de l'équipement travaillent sur notre demande depuis une huitaine de jours. Nous allons avoir encore quelques réunions de travail avec eux. Et nous vous donnerons la fumée blanche lors du conseil municipal du 20, à la fois parce que je suis respectueux également des accords passés avec mes collègues de l'Ouest-Provence, dans le cadre d'une réflexion globale, nous verrons ce que nous faisons sur cette zone, si on la retire, si on la retire pas, si on maintient, si on fait signer le préfet, si on la modifie, je ne sais rien. Voilà. Mais je crois qu'il faut quand même pas, et je suis assez effaré, de voir comment l'arbre peut cacher la forêt. Et comment je vois dans les yeux de certaines depuis 8 jours une jubilation totalement gratuite avec les journalistes qui sont appelés, qui essaient de me harceler au téléphone, j'en ai encore une tout à l'heure, comme si l'avis du commissaire enquêteur sur la zone des Palons était la chose fabuleuse qui occultait tout ce que j'évoquais tout à l'heure derrière, qui représente quand même la vie de la commune, les logements, les artisans, le développement d'urbanisme, etc. Bon. C'est une opération que l'on traîne depuis 20 ans, qui nous a jamais empêché de nous développer. Alors, où il y a des satisfactions de règlement de compte personnel, qu'on considère comme un règlement de compte personnel, qui ne prennent pas en compte le devenir de la commune, tant sur le plan économique, développement, parce que ça fait quand même 150 emplois de perdus, etc. On va me dire que la taxe professionnelle, mais quoique, ça fait du foncier bâti, je ne sais pas. Bon. Mais, bon, moi j'aurais peut-être aimé qu'on se satisfasse qu'on va pouvoir avoir des logements sociaux, qu'on va pouvoir aménager des quartiers, qu'on va pouvoir agrandir le cimetière, qu'on va pouvoir accueillir des artisans, que, oh putain, ils vont pas avoir la zone, etc. Une espèce de jubilation. Il y en a qui, pour le 11 novembre, qui trépignaient comme s'ils avaient eu le truc. J'avoue que moi, je ne m'empêche absolument pas de dormir. Je ne sais même pas si j'y trouve pas moi aussi une certaine jubilation, mais pas la même. Et que, voilà, on verra à l'avenir. Si la satisfaction, c'est ça, c'est une vision très très restreinte de la vision que certains peuvent avoir du devenir de Grance. Je pense qu'autour de cette table, beaucoup ont une vision beaucoup plus haute de ce que notre village peut faire et peut donner. Voilà ce que j'avais à vous déclarer sur le PLU, tant entendu que donc, on vous dira, et on dira en conseil municipal, au prochain conseil municipal, parce qu'on aura sûrement ce projet. Ce que les juristes, et à l'aspect politique, déjà les juristes, parce que vous savez, parce que derrière, si on annule la zone, mettez qu'on soit condamné à rembourser les terrains, 9 millions, un promoteur qui lui a acheté de bonnes fables, il y a toute une série de paramètres à voir, mais moi j'ai la responsabilité globale de la commune, je ne suis pas simplement là pour bloquer des projets, il faut que je vois, que je jauge avec la majorité, tout ce qui peut être bon ou mauvais pour la commune et prendre la décision sereinement après. Voilà ce que je souhaitais déclarer là-dessus, mais que je ne voulais pas déclarer à la presse tant que le conseil municipal, c'est pour ça que je n'ai pas répondu à la presse, que j'aurais dit que j'avais rien à dire. Alors tout de suite, c'était « Ah bon, vous êtes emmerdé », enfin, je réserve ma position à la majorité et au conseil municipal. Alors la majorité, je vous ai dit tout à l'heure, et le conseil municipal, je vous vois maintenant. Voilà, la séance est levée, merci. Il faut dire que tu jubiles le carré des petits plaisirs, tu ne peux pas te permettre d'en avoir des gros. Nous on a des gros plaisirs.